Il est 6h, presque 5 minutes. Hier, je vous prédisais du temps maussade pour toute la semaine. Ben, c'est moins maussade que ce que je disais finalement. Aujourd'hui, c'est ennuagement, 60% de risque d'averse cet après-midi. Il y a aussi un risque d'orage. Il fera 28 degrés au maximum. Ce soir et cette nuit, généralement nuageux, 60% de risque. Il y a aussi un risque d'orage pour ce soir. Mais demain, mercredi, c'est alternance soleil-nuage, quelques averses le matin. Mais par la suite, en mi-journée, ça pourrait devenir plus beau. Il fera 30 degrés. Cependant, mercredi, c'est chaud et ce sera dégagé la nuit suivante pour nous amener du beau soleil jeudi et alternant soleil-nuage, 60% de risque de pluie pour vendredi. Il fait 18 en ce moment à Montréal. Dans les différents quotidiens, évidemment, on parle beaucoup de Desjardins et de la protection qu'on a annoncée hier pour tous les membres. Pour faire la distinction, là, c'est une espèce, en fait, c'est une assurance que met sur pied Desjardins pour tous les gens qui ont un compte là-bas. Pas juste ceux dont l'identité a été volée, mais l'ensemble des clients de Desjardins vont pouvoir bénéficier de cette nouvelle protection. Ce qu'a dit hier Guy Cormier, le PDG de Desjardins, il dit « Vous êtes protégé, que vous ayez été touché ou non par la fuite de renseignements personnels. » Alors, évidemment, M. Cormier a convoqué les médias pour dire que l'institution allait offrir des solutions de protection permanente. Ils ont quand même une image à redorer chez Desjardins, là. Alors, il a dit que les 4,3 millions de membres particuliers, 300 000 entreprises, vont avoir droit à une protection qui sera gratuite et qui va durer à vie. Et dès ce matin, donc, tous les membres de Desjardins peuvent se prévaloir de ce service de protection, selon ce qu'a dit M. Cormier, mais sans avoir quoi que ce soit à faire. Vous l'avez déjà. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur un site ou quoi que ce soit, comme c'est le cas en ce moment avec Equifax pour les gens qui dont l'identité a été dérobée, là. En gros, ce que ça comprend, là, en plus de continuer à surveiller les transactions douteuses, de rembourser 100% des sommes qui vont être perdues, Desjardins va aussi offrir une assurance de 50 000 $ pour éponger les factures qui seraient liées à l'utilisation frauduleuse des renseignements. Alors, ça comprend plein de choses. Perte de salaire, frais de documents juridiques, restauration d'identité, accès à des avocats spécialisés, vol d'identité, etc. Donc, évidemment, là, vous comprenez que c'est une grosse opération de relations publiques que fait Desjardins pour démontrer qu'il lave plus blanc que blanc désormais. D'ailleurs, M. Cormier était de passage devant une commission parlementaire hier pour dire finalement que va falloir se pencher sur la protection des renseignements personnels au Canada pour établir des normes qui soient plus strictes et s'assurer qu'un vol comme celui-là ne se reproduise plus. Alors, évidemment, là, sont dans une situation assez précaire, on comprend. Bon, un signal cellulaire aide à la recherche, pardon. C'est ce qu'on vous annonçait hier sur nos ondes. Hier matin, la Sûreté du Québec a décelé un signal cellulaire qui provient ou qui proviendrait, en fait, du téléphone du président de Savouraille qui est porté disparu avec son fils, là, dans le nord, secteur boisé dans le nord. La Sûreté du Québec a sillonné avec un sonar le réservoir Michinamekus, situé à environ 125 km au nord de Mont-Laurier, en espérant trouver une masse qui pourrait être l'appareil dans lequel le PDG de Savoura, c'est Stéphane Roy, et son fils sont disparus. Ce qu'on explique, c'est que il avait l'habitude d'aller survoler ce territoire-là, qui est pas très loin de son chalet, à environ 5 km de son chalet. C'est dans ce coin-là ce qu'on comprend que le faible signal cellulaire a été décelé. Et là, on veut savoir s'il s'est pas posé sur l'eau, finalement, et donc l'hélicoptère aurait pu couler. Alors, c'est dans ce coin-là qu'on a orienté hier les recherches. Dans le journal Le Devoir, c'est quand même assez inquiétant. Ce qu'on apprend, c'est qu'il y a des milliers d'obus qui ont été tirés dans le lac Saint-Pierre, dans le secteur de la Mauricie. Le lac Saint-Pierre, là, c'est une extension, si on veut, du fleuve Saint-Laurent. Et entre 1952 et 1999, le ministère de la Défense nationale a tiré plus de 500 000 obus, des munitions d'artillerie, pour les tester. Puis ça tombait dans le lac. Et puis, il y a plusieurs de ces obus-là qui n'ont jamais explosé. Alors là, le ministère de la Défense veut les récupérer parce qu'il y a un risque important d'explosion. Alors, on a lancé une vaste opération là pour essayer de récupérer 8000 projectiles qui contiennent des matières explosives et qui sont dans le fond du lac. Alors, le ministère de la Défense estime que plus de 300 000 projectiles se trouvent toujours dans le fond du lac. Près de 8000 de ces obus n'ont jamais explosé et contiennent donc des explosifs, mais jugés extrêmement dangereux. C'est pour ça qu'on veut les récupérer. Et ils sont pas très profondément enfouis dans le fond, dans les sédiments du fond du lac Saint-Pierre. Certains obus seraient à une trentaine de centimètres seulement. C'est une opération qui était déjà en cours là, depuis quelques années. Mais là, le ministère de la Défense va mettre le paquet pour essayer de retirer ces obus qui sont dispersés sur un territoire de 160 kilomètres carrés dans ce vaste lac qui est situé pas très loin de Trois-Rivières, là, un petit peu avant Trois-Rivières. Alors, une opération comme celle-là est très coûteuse pour le ministère de la Défense, mais on dit qu'on n'a pas le choix parce que les gens ont le droit d'aller sur ce plan d'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau non plus à cet endroit-là, de ce qu'on comprend. Et donc, il y a quand même un risque que ça puisse exploser. Alors, on veut le récupérer. Bon, évidemment, hier, on a présenté la deuxième carte des zones d'intervention spéciales à la suite des inondations de cette année. La première qui a été présentée il y a à peu près 2 ou 3 semaines, faisait pas l'affaire parce qu'il y a beaucoup de municipalités qui disaient « Nous autres n'ont jamais été inondés en 2019-2017, puis on se retrouve dans des zones d'interdiction où il y a un moratoire sur la construction ou encore la rénovation de maisons. » Alors, on trouvait pas ça normal. On a demandé au gouvernement de refaire ses devoirs, ce qu'ils ont fait. Et là, ben on a présenté hier la deuxième mouture de cette fameuse carte qui comporte toujours des erreurs selon des élus municipaux. Il y a 5 villes de Montérégie qui sont encore touchées par la mesure alors qu'elles n'ont jamais été inondées durant les crues de 2017 et 2019. Alors, le ministère des Affaires municipales a présenté hier cette nouvelle carte qu'on appelle les ZIS, les zones d'intervention spéciales. Et la nouvelle version qui a été publiée est moins étendue. Il y a 31 municipalités qui ont été soustraites à l'application du moratoire. Elles sont maintenant 783 au Québec à être touchées. Et il y a certaines municipalités du Grand Montréal qui sont exclues, notamment Blainville, Sainte-Thérèse, Dollard-des-Ormeaux. Mais en revanche, la grande majorité des villes de la Montérégie, de l'Outaouais et des Laurentides, celles qui ont été les plus durement touchées par les crues, restent soumises à ce fameux moratoire. Et c'est un résultat qui déçoit, entre autres, le préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, Patrick Bouzès, parce que, bon, il y a une partie des municipalités de Saint-Zotique, les Coteaux, Coteaux-du-Lac, les Cèdres, également Pointe-des-Cascades, qui sont toujours ciblées par le fameux moratoire. Et le maire de Saint-Zotique, Yvon Chiasson, dit que 17 propriétés de sa ville restent visées par ce moratoire, alors qu'il ne trouve pas ça normal. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard, parce que c'est sûr que c'est une question délicate. S'il y a du danger que tu sois inondé, bien là, à un moment donné, on peut-tu arrêter de payer à répétition pour des maisons qui sont situées en zone inondable? Mais d'un autre côté, si toi, tu n'es jamais inondé, alors qu'il y a eu des crues historiques en 2017 et en 2019, est-ce qu'il existe véritablement un danger? Il y a des gens qui pensent que non. Alors, donc, ils ont peut-être raison, finalement, de se plaindre. Je vous ai parlé la semaine dernière de ce voleur de petites culottes qui sévissait dans le secteur de Gatineau. Eh bien, hier, c'était, il comparaissait devant le tribunal. Et ce Gatinois, n'est-ce pas, qui est accusé de vol de culottes féminines, aurait aussi filmé certaines de ses victimes dans leur intimité et publié les films et les photos sur des sites pornographiques. Et les gestes sont très préoccupants selon la police de Gatineau, entre autres une sergente détective qui s'appelle Doriane Côté. Elle a énuméré les détails des crimes qui ont été allégués à l'accusé qui s'appelle Mason Vachon. Écoutez bien, c'est incroyable. Souvenez-vous de Russell Williams. Vous vous souvenez, le grand patron de la base de Trenton, là, qui en Ontario, qui a tué 2 femmes. Mais il avait commencé comme ça. Il se promenait dans le secteur de Ottawa, puis il rentrait dans les maisons, puis il allait voler des bobettes. Alors, tu sais, il faut prendre ces allégations-là ou ces gestes-là très au sérieux. Alors, le gars en question laissait des notes écrites. En fait, il volait des bikinis, il volait des petites culottes, mais il a été assez épais pour laisser son adresse, son numéro de téléphone, parce que lui, ce qu'il voulait, il voulait payer pour avoir des sous-vêtements qui avaient déjà été portés. Alors, il est allé voir les gens qui avaient laissé les affaires sur la corde à linge, puis il a dit, ben la prochaine fois, mettez-les dans une boîte, puis appelez-moi. Voici mon numéro de téléphone, je vais passer le chercher. C'est de même qu'ils l'ont attrapé. Tu sais, au moins, on peut compter sur un criminel tata. Alors, donc, il s'est fait prendre, finalement. Alors, mais quand même, on prend ça très au sérieux parce que c'est quand même des crimes qui sont relativement mineurs, mais qui peuvent mener à autre chose, finalement. Alors, c'est assez troublant comme histoire dans le secteur de Gatineau. Et tiens, on va continuer avec ces chantiers. Combien y a-t-il de chantiers routiers à Montréal ou des entraves sur les routes? Il y en a combien? Alors, le journal La Presse s'est dit, on va appeler à la ville, ils vont nous le dire, il y en a combien? Mais ils ne sont pas capables de le savoir. C'est impossible à savoir. Pourquoi? Bien, d'une part, parce qu'il faut appeler dans chacun des arrondissements pour avoir une bonne idée de ça. Et par ailleurs, il y a tellement de chantiers privés qui ont des entraves à la circulation qui sont, et c'est dur de répertorier le nombre total dans chacun des arrondissements. Mais là, si vous promenez à Montréal, là, vous envoyez partout des chantiers privés. Faites juste le tour ici sur Gauchetière. Moi, vous dire une chose, quand vous arrivez autour de Place Bonaventure, c'est pas évident. Il y a des cônes orange partout, les voies sont réduites, etc., parce que ça fait 2 ans, je pense, qu'ils sont en train de refaire la bâtisse. Puis d'après moi, il y en a encore pour un bon bout de temps. Alors, c'est un exemple, mais il y en a plein comme ça à Montréal. Alors, vous voulez savoir quelles sont les rues bloquées par des travaux ou des chantiers pour éviter d'être coincé dans d'interminables bouchons? Eh bien, bonne chance, vous ne le saurez pas. Le journal La Presse a essayé de faire le décompte. Ils n'ont pas réussi.